Monsieur Gerald Weston. La mission de Jérémie. La Bible nous dit que nous allons vivre des temps très difficiles. Si nous vivons dans les derniers temps, et nous avons certainement beaucoup de raisons de penser que c'est le cas, nous allons devoir affronter des temps très difficiles. Les choses ne seront pas aussi faciles qu'elles l'ont toujours été. La plupart d'entre nous qui avons vécu dans ce pays ont connu un passé plutôt agréable. Certains parmi nous sont originaires d'autres pays où la situation n'était pas aussi enviable. Mais les 75 dernières années ont été plutôt bonnes pour la plupart d'entre nous. Certes, il y a eu le problème du Vietnam, et certains parmi nous en ont fait l'expérience. Mais, dans l'ensemble, nous vivons dans un pays où il fait bon vivre. Il n'en sera pas toujours ainsi. Il est parfois difficile d'imaginer que Dieu puisse utiliser un aussi petit groupe que le nôtre, même s'il est dévoué, pour témoigner au monde entier. Et pourtant, l'Écriture dit qu'avant la fin de l'âge, cet évangile sera diffusé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Bien sûr, pour pouvoir répandre le véritable évangile, il nous faut d'abord savoir ce qu'est cet évangile. Nous comprenons aussi qu'il y a beaucoup d'autres raisons importantes pour lesquelles nous avons été appelés. Lorsque nous considérons les serviteurs de Dieu d'époque antérieure, nous constatons qu'ils n'occupaient généralement pas des positions de premier plan dans leurs sociétés respectives. On peut dire que nous avons tous un impact relativement modeste sur la société dont nous faisons partie. Cependant, à un moment donné, lorsqu'un moment opportun se présentera, Dieu mettra ses serviteurs au premier plan. Un tel cas s'est présenté à l'époque d'un homme du nom de Jérémie. Et nous allons aujourd'hui examiner sa vie afin de voir comment Dieu s'est servi de lui pour accomplir une grande œuvre dont nous pouvons encore noter les effets de nos jours. Rendons-nous donc au livre de Jérémie. Nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui, principalement dans Jérémie. Allons à Jérémie le chapitre 1 et voyons ce qu'il nous apprend à propos de Jérémie. Quand il a prophétisé, combien de temps il l'a fait, et à quel groupe de personnes il s'est adressé. Jérémie, chapitre 1, verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote, dans le pays de Benjamin. Maintenant, et cela deviendra significatif un peu plus tard, Jérémie était originaire d'Anatote, une ville sacerdotale, et il était un sacrificateur. Versets 2 et 3. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Plutôt précis, n'est-ce pas? Ces prophéties se sont donc déroulées sur une période d'un peu plus de 40 ans. Pendant les 18 dernières années de Josias, les 3 mois du règne de Joachaz, les 11 ans de Joachim, les 3 mois de Joachin, et finalement, les 11 années du règne de Sédécias. Versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est là un verset significatif pour de nombreuses raisons. L'une d'elles étant que notre monde actuel est sur une pente glissante qui le conduit à tuer des bébés, et cela même après leur naissance, ce qui a déjà été fait. Parfois, l'avortement est bâclé, et l'enfant va survivre. Parfois, il les laisse tout simplement mourir, à moins qu'ils ne causent leur mort de façon délibérée. Mais parfois ils vont réellement survivre. On connaît au moins une survivante très célèbre de cette pratique de l'avortement, et elle ne se gêne pas pour condamner cet acte. S'il est vrai qu'elle souffre d'un certain nombre de problèmes à cause de ce qu'elle a subi, son esprit n'en a pas pour autant été affecté, comme on peut le constater en l'écoutant parler. Nous en sommes arrivés au point de ne plus voir que Dieu nous a créés d'une manière très spéciale, et que la vie est sacrée et précieuse. Ainsi, parlant de Jérémie, Dieu avait dit au verset 5, « Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Quand Dieu commence-t-il à travailler avec chacun d'entre nous? C'est là une question dont nous ne pouvons pas connaître la réponse avec certitude. Quand Dieu a-t-il commencé à travailler avec vous? Quand a-t-il commencé à travailler avec moi? Un de ces jours, nous découvrirons peut-être qu'il a commencé à travailler avec nous bien avant que nous ayons entendu la vérité, et cela de différentes manières. Continuons. Versets 6 à 8. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » On se souviendra de Jonas, et de ce qui arrive quand on ne suit pas les instructions de Dieu. Que cela soit un exemple pour chacun d'entre nous. Nous ne devons pas craindre ce que les hommes peuvent faire. Nous devons craindre Dieu. Allons brièvement à 1 Pierre chapitre 3, verset 13, où il est dit, 1 Pierre 3, verset 13 à 15, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Ici, Pierre cite Ésaïe, plus précisément Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 14, où Dieu avait effectivement dit à Ésaïe de ne pas se laisser troubler par leurs menaces. Voyons-le. Ésaïe 8, versets 11 à 14. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. On voit ici que Dieu a dit à Ésaïe et à Jérémie, et Pierre l'a répété aux gens de son époque, de ne pas craindre les hommes et les menaces qu'ils font. Cela dit, je me demande si nous réalisons à quel point cela va nous affecter personnellement dans le futur. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais nous savons tous que les menaces viendront un jour ou l'autre. Revenons au livre de Jérémie, cette fois au chapitre 3, où nous allons voir qu'il ne s'adresse pas seulement aux Juifs de son époque. La plupart des gens pensent que tout ce qui est dit dans les prophètes, c'est pour les Juifs. Nous savons cependant qu'il existe deux maisons, la maison de Juda, les Juifs, et la maison d'Israël, formée des autres tribus d'Israël. Dieu passe beaucoup de temps à parler d'Éphraïm et de Manassé, les fils de Joseph, et nous savons grosso modo qui ils sont. Mais ici, dans le livre de Jérémie, il est évident que la prophétie ne s'adresse pas uniquement aux Juifs. Voyons-le au chapitre 3. Jérémie chapitre 3, verset 6. L'Éternel me dit, au temps de Josias, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ?» Puis, vers la fin du verset 7, on lit, « Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. » Cela montre que l'existence de ces deux maisons était déjà connue à cette époque-là. Jérémie nous y informe que l'une avait été divorcée et que l'autre allait subir le même sort sous peu. Quant au verset 18, parlant d'un temps futur, il y est dit « En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. » Effectivement, et le verset précédent le confirme, verset 17, « En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem. » On parle donc bien ici d'un temps futur. Et notez qu'à cette époque-là, la maison de Juda et la maison d'Israël existeront toujours. Tournons-nous aussi vers Jérémie chapitre 5, au verset 1 et 2. Jérémie 5, verset 1 et 2. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Oui, comme il est mentionné dans Ésaïe chapitre 59, au verset 14, la vérité trébuche sur la place publique. Effectivement, il est difficile de trouver une époque antérieure où circulaient autant de fausses nouvelles qu'à l'heure actuelle. Tout n'est que mensonge. Nous nous attendons à ce que nos politiciens mentent. Nous prenons pour acquis qu'ils vont nous mentir. Jérémie chapitre 5, versets 10 et 11. Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces ceps qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Notez qu'à ce moment-là, Jérémie prophétise principalement aux Juifs, car la maison d'Israël est déjà partie en captivité. Cependant, il faut voir tout cela dans un concept de dualité, car les choses qui se produisent à cette époque ne sont qu'un type de ce qui va se produire plus tard. Ainsi, il fait ici référence à la maison d'Israël et à la maison de Juda, mais lorsqu'il parle de monter sur les murs de Jérusalem, cela valait pour les Juifs de son époque. Continuons. Versets 12 et 13. Ils renient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. Notez à nouveau que deux maisons sont impliquées ici. Verset 18. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. C'est là encore une référence à la fin de l'âge. Puis au verset 20 et 21, annoncez ceci à la maison de Jacob. Publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Encore une fois, ceci n'est pas seulement adressé aux Juifs et pour ceux de l'époque de Jérémie. La dualité veut que ceci soit un message pour tout Israël, la maison d'Israël et la maison de Juda. Et cela s'adresse aux Juifs à ce moment-là, bien sûr, mais cela parle aussi d'un temps encore à venir. Notez-le dans Jérémie chapitre 10 au verset 1. Jérémie chapitre 10 verset 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. J'ai passé outre de nombreuses références, mais je crois qu'il est facile de voir que Jérémie ne parle pas uniquement des Juifs de Jérusalem qui vivaient à son époque. Nous avons tant de prophéties qui s'interprètent facilement, et nous en verrons une très marquante au cours de ce sermon. Tournons-nous maintenant vers Jérémie chapitre 16. Jérémie, nous le savons, avait été appelé par Dieu avant même sa naissance, et il allait avoir une vie difficile. Dieu lui a en effet donné des instructions qui seraient très difficiles à gérer pour un jeune de notre époque. Voyez par exemple ce qui est dit dans Jérémie chapitre 16, au verset 1 et 2. Jérémie 16, verset 1 et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Pas évident, n'est-ce pas? Cela dit, comme Jérémie a prophétisé pendant près de 40 ans, s'il avait environ 30 ans quand Dieu lui a formulé cette demande, celle-ci s'appliquerait donc à lui jusqu'à l'âge de 70 ans. Il n'est d'ailleurs pas mort à ce moment-là. Ce fut seulement la fin de la partie publique de sa mission. Vous devez réaliser qu'il était un homme relativement jeune lorsqu'il reçut cette instruction. En effet, quand Dieu le prit à son service, n'a-t-il pas dit Mais je ne suis qu'un jeune homme. » Dieu lui a alors répondu, « Ne dis pas cela, car je t'ai choisi. » On pourrait spéculer sur son âge exact, mais il est sûr qu'il était jeune à ce moment-là. Le fait que Dieu lui dise alors, « Tu ne prendras pas de femme et tu n'auras ni fils ni fille dans ce lieu », devait donc sûrement aller à l'encontre de son désir naturel de vouloir fonder une famille. Oh, cela n'excluait pas la possibilité de le faire plus tard, mais alors il aurait été vieux au moment où il aurait pu avoir une femme et peut-être des enfants. Verset 3, Jérémie 16, verset 3. « Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consommés par la maladie. » Jérémie était donc envoyé à ces gens-là, et il est facile de voir qu'en raison des circonstances auxquelles ils allaient tous être confrontés, il serait préférable pour lui de ne pas fonder une famille à une époque aussi éprouvante. C'est aussi ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 7, en mentionnant ces temps difficiles qui approchent. Entre parenthèses, je ne dis pas que cette recommandation s'applique aussi à nous qui vivons à l'époque présente. Toujours est-il que Jérémie n'a pas dû trouver cette directive de Dieu facile à avaler. À nouveau, Jérémie 16, verset 4, « Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. » Versets 5 et 6. « Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays. » On ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, on ne se fera point d'incision, et l'on ne se rasera pas pour eux. Or, lorsque ce commandement a été donné à Jérémie, à l'époque de Josias, le pays jouissait d'une paix relative. Ce n'est que plus tard que ces choses se sont produites, et Jérémie ajoute que le temps viendra où on n'enterrera même plus les cadavres. Le siège de Jérusalem allait être une chose horrible. Verset 7. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort, et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. Autrement dit, ce serait terrible au point qu'ils seraient tellement distraits par leurs propres problèmes qu'ils ne feraient même pas le deuil de leur père et de leur mère. Verset 8. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Ce qui semble indiquer que, peu avant, régnait encore une époque où on se livrait à des festins. Verset 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Dieu était sur le point de priver Juda de certaines choses à cette époque-là, et c'est pourquoi il donna certaines directives à Jérémie. Je vous laisse lire le reste du chapitre 16. Il y avait donc ces directives à l'endroit de Jérémie. Il ne devait pas chercher à se marier, avoir des enfants, participer à des fêtes ou à des deuils, tout cela à cause de ce qui allait arriver dans le futur. Comme nous pouvons l'imaginer, le message de Dieu à Jérémie n'était pas un message populaire. En fait, n'est-il pas souvent question de Jérémiade quand nous parlons d'événements qui apportent le malheur? Vous pouvez rechercher ce mot dans le dictionnaire et vous constaterez qu'il a souvent une connotation négative, ce qu'on attend d'un prophète qui apporte de mauvaises nouvelles. Pourtant, cela peut aussi s'accompagner de bonnes nouvelles. Jérémie leur donnait un avertissement, mais, à leurs yeux, cela avait une connotation négative. Ils n'aimaient pas ça. Jérémie avait donc un message qui n'allait pas être populaire. Allons à Jérémie chapitre 11. Notez qu'au verset 17, il est toujours question de la maison d'Israël et de la maison de Juda. Puis, soudain, on est confronté à une réflexion plutôt intéressante. Jérémie était encore relativement jeune à ce moment-là. Jérémie 11, verset 18. L'Éternel m'en a informé, et je l'ai su. De quoi est-il question ici? Nous devons continuer à lire pour comprendre ce qui lui a été révélé. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. Il y a donc quelque chose qui se trame ici. Verset 19. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. On voit ici que certains individus avaient organisé un complot pour le retrancher de la terre des vivants, autrement dit pour l'assassiner. Ils n'aimaient pas Jérémie, et encore moins le message qu'il leur transmettait. Nous avons passé sous silence une grande partie des messages qu'il leur avait transmis, mais ils étaient assez puissants. Ils les avaient condamnés pour leurs péchés et leur mode de vie, et les gens n'aimaient pas ça. Ils voulaient qu'on leur dise des choses flatteuses, pas des choses qui les feraient passer pour des pécheurs. Verset 20. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Dieu avait révélé à Jérémie des choses très choquantes qu'il devait transmettre au peuple. Lorsqu'il le fit, en s'attirant leur courroux, le voilà qui s'offusque, disant « Dieu, détruis-les, que ta vengeance s'abatte sur eux. Montre-leur que je n'ai fait qu'agir en tant que ton serviteur. » Verset 21. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote, qui en veulent à ta vie, et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, où tu mourras de notre main. » Il s'agissait ici de gens de sa ville natale. Il vivait au milieu d'eux, et voilà qu'il voulait lui enlever la vie. Ce n'étaient donc pas de parfaits inconnus, des gens d'ailleurs. Versets 22 et 23. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée. Leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote l'année où je les châtierai. Dieu s'efforce donc de le calmer, disant « Ne t'en fais pas, je vais m'occuper d'eux. Quand le moment sera venu, ils devront souffrir pour leurs péchés et pour les menaces qu'ils ont proférées contre toi. » Puis dans Jérémie chapitre 12, au verset 1 et 2, nous lisons, Jérémie 12, verset 1 et 2, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Oui, Dieu, il y a quelque chose qui me tracasse. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Oui, ils semblent s'en sortir très bien. Ce sont ceux qui ne te servent pas qui semblent avoir tout pour eux. Ils sont riches, ils sont gras, ils sont heureux, ils font la fête et ont du bon temps. Pourquoi? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. » Et vous savez, la même chose s'observe de nos jours. Les gens vont parler du Seigneur et de tout ce qu'il a fait, mais dans bien des cas, leur façon de vivre ne reflète pas sa voix. Hélas, nous pourrions dire la même chose en ce qui concerne certains d'entre nous dans l'Église. Je sais que certains d'entre nous ne vivent pas selon les normes bibliques. Ils vont peut-être aussi avoir Dieu près de leur bouche, mais il sera loin de leur esprit. Versets 3 et 4. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger, et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée. À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent « Il ne verra pas notre fin ». Ce sont là des propos tenus par Jérémie, qui s'apitoie peut-être un peu trop sur son sort. Il se compare au monde, et il commence à perdre un peu la vision d'ensemble à cause du stress que lui occasionnent ceux qui le persécutent, des complots contre sa vie, et ainsi de suite. C'est pourquoi Dieu lui dit au verset 5, « Si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux ?» En d'autres termes, si tu ne peux endurer les choses quand tout va bien, comment vas-tu le supporter quand les temps seront durs? Vous savez, frères et sœurs, pour l'instant, nous n'avons pas vraiment souffert de persécution en tant qu'Église. Certes, ils ont peut-être refusé quelques-unes de nos émissions télévisées en Nouvelle-Zélande et ailleurs. C'est que cela les met mal à l'aise quand nous parlons de choses qui montrent clairement la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'était là le sujet abordé par M. Smith dans une de nos émissions, et ils ne pouvaient tout simplement pas le supporter. D'ailleurs, ils n'ont pas non plus supporté l'émission de M. McNair à propos de Dunkerque, parce qu'ils n'avaient à aucun moment fait allusion au réchauffement climatique durant cette émission. C'est totalement idiot. Et cela nous frustre. En tout cas, c'est certainement mon cas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont butés au point de ne pas pouvoir supporter un élément de vérité. Bon, au moins ils ne nous jettent pas des pierres. De ce côté-là, nous sommes encore chanceux. À nouveau, versets 5 et 6. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, et de fait la paix régnait encore à ce moment-là, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Oui, que feras-tu quand l'ennemi déferlera sur toi comme un torrent, autrement dit, quand les temps seront vraiment durs? C'est que les hommes d'Anatot voulaient attenter à sa vie. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ils agissent en hypocrite. Ils lui disent une chose, mais derrière son dos, ils complotent contre lui, eux, des gens de sa propre famille. Dans Matthieu 10, verset 34, Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Il parlait de la façon dont les membres d'une famille sont en désaccord les uns avec les autres. Et je pense que la plupart d'entre nous ont vécu cela, à un certain degré, lorsque nous avons connu et pratiqué la vérité, et que nous avons cessé de faire certaines choses que nos familles faisaient. Ainsi, nous avons changé le jour de notre culte, nous avons cessé de manger certains types de nourriture, et ils ont eu du mal à le supporter. Habituellement, nos voisins, qui ne nous connaissent pas, surtout si nous sommes arrivés depuis peu, peuvent nous accepter tels que nous sommes. Mais ce sont les gens qui nous connaissent qui ne veulent pas que nous changions. Cela rend les choses difficiles. Les gens ne veulent pas que nous changions. Pourtant, c'est ce que nous devons faire si nous voulons servir Dieu. Nous devons lui faire confiance et être proches de lui. Ainsi, les hommes d'Anatot et ses propres frères avait menacé de tuer Jérémie. Dans Jérémie chapitre 18, au verset 18, nous lisons, Jérémie 18, verset 18, « Et ils ont dit, « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ses discours. » Nous lui ferons la guerre dans une campagne de relations publiques. Nous raconterons l'histoire à notre façon. Vous voyez, le recours aux fake news, ce n'est pas nouveau. Cela se pratique depuis longtemps. En politique, chaque parti a sa propre façon de présenter les choses. On dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Il est un fait que nous avons des luttes intestines parmi nous, et les conflits abondent. À nouveau, verset 18, « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage. » Ils se trompent eux-mêmes. La loi avait disparu des sacrificateurs, tout comme il y a de nos jours des ecclésiastiques qui encouragent l'homosexualité, le travestissement et d'autres perversions, tout en disant que la Bible ne condamne pas cela. Cela montre qu'ils n'ont pas lu la Bible, ou qu'ils l'ont lue pour lui faire dire ce qui fait leur affaire. Ils ont beau dire qu'ils suivent ses directives, c'est faux. Versets 19 et 20. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. En d'autres mots, Jérémie avait essayé de défendre son peuple devant Dieu, et il a sans doute prié pour que sa nation change de comportement. Malgré tout, ils ont totalement rejeté cela et ont même comploté contre sa vie. Ils se sont efforcés de salir sa réputation en parole. C'est pourquoi il poursuit en disant, versets 21 et 22, « C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat, qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds. Oui, ils essaient de me détruire par tous les moyens possibles. » On voit ici un Jérémie déchaîné. C'était sa prière, cela reflétait ses pensées. Verset 23. « Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leurs péchés de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. » Il peut sembler que Jérémie manifeste ici un comportement plutôt charnel. On ne le voit certainement pas qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais je pense qu'il nous faut voir ceci dans le contexte de l'époque. Nous avons ici accès aux pensées intimes de cet homme. Combien de fois avons-nous entretenu des pensées similaires? Nous n'avons probablement pas connu le même type de persécution que lui. Du moins, je ne le pense pas. Et c'est pourquoi nous ne pensons pas comme lui. Mais lorsque la vraie persécution arrivera, nous verrons à quel point chacun d'entre nous agira à la manière d'un chrétien converti. Jérémie chapitre 19 représente en quelque sorte un résumé du message que Dieu livre à son peuple à travers son prophète. Jérémie 19, versets 1 à 3. Ainsi a parlé l'Éternel. Va, achète d'un potier un vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, « Écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. » Verset 4. « Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. » Je ne lirai pas tout, mais cela vous donne une idée de ce qu'ils leur reprochaient. Un peu plus loin, au verset 7 et 8, nous lisons « J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. » Assurément, son message n'allait pas être perçu d'une façon très positive par le peuple. Celui-ci allait probablement le considérer comme étant une autre de ces jérémiades auxquelles il commençait à être habitué. Poursuivons dans Jérémie chapitre 20, au verset 1 à 10. Jérémie chapitre 20, verset 1. Pashour, fils d'Immer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel. Remarquez que c'est bien Pashour, fils d'Immer, car nous allons lire le nom de deux autres personnes portant le même nom. Pashour, fils d'Immer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses mentionnées dans Jérémie chapitre 19. Et Pashour frappa Jérémie le prophète et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. On sait que Jérémie avait été retiré de la fosse et qu'on le gardait dans la cour de la prison. Mais quelle était sa situation là? Était-il soumis au supplice du pilori? Avait-il les pieds et peut-être même les mains dans des carcans reliés à des chaînes d'airain? On ne sait pas. La Bible ne donne pas de précision à ce sujet. Verset 3. Mais le lendemain, Pashour fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pashour que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor-Missabib. » Jérémie avait probablement eu beaucoup de choses à penser lorsqu'il était en prison, et Dieu lui a inspiré un autre nom pour Pashour. Celui-ci signifie littéralement « peur de tous côtés ». Verset 4. « Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. » Verset 6. Et toi, Pashour, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis, auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Il était soumis à un barrage constant de haine, de mensonges et d'accusations. Maintenant, il est facile pour nous de lire cela, mais qu'en sera-t-il lorsque nous le subirons? Cela n'a pas encore été le cas. Bien sûr, nous avons nos détracteurs avec leurs blogs haineux, et ce genre de choses auxquelles je ne prête pas beaucoup attention. En fait, je ne les regarde presque jamais, car ce n'est pas nécessaire. Vous savez d'où ça vient et ce qu'ils vont faire. Ils se contentent de sortir les choses de leur contexte et de raconter des mensonges. Certaines personnes stupides croient ces choses, mais je pense que la plupart d'entre nous sont assez intelligents pour ne pas tomber dans le panneau. Verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, c'est-à-dire si je devais m'arrêter de prêcher, arrêter de faire mention de Dieu, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. On le surprendra dans ses propos tôt ou tard, pensait-il. Ainsi, il cherchait constamment à détruire ce jeune homme. Quand on s'arrête pour y penser, prophétiser pendant 40 ans et devoir supporter tout cela, surtout durant les premières années où il a dû en quelque sorte s'y habituer, ce devait être très difficile, très éprouvant. Allons maintenant à Jérémie chapitre 38, où les choses vont empirer pour Jérémie. Jérémie 38, versets 1 à 3. Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pachour, Jukal, fils de Shelemia, et Pachour, fils de Malkija, notez qu'aucun de ces deux Pachour sont fils d'Immer, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il y vivra. » Il parle ici de la chute imminente de Jérusalem et il dit au peuple « Écoutez, baissez les armes, passez à l'ennemi, ils vous traiteront décemment. » Pensez-y, qu'est-ce qui se serait passé si, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la Grande-Bretagne se trouvait sous le feu de l'ennemi, quelqu'un aurait prêché haut et fort « Abandonnez! Rendez-vous aux nazis !» Certes, il y avait des gens qui penchaient de ce côté politiquement. N'empêche que si quelqu'un avait encouragé tout le monde à ne pas simplement abandonner, mais d'aller là-bas et de se rendre, n'aurait-il pas été considéré comme un traître? Poursuivant. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Versets 4 à 6. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. On le prenait pour un traître. Dire ce qu'il avait à dire était assez difficile quand on y pense. Et vous auriez tout lieu de vous considérer comme un traître en le faisant. Mais Jérémie savait à qui il accordait son allégeance. Le roi Sédécias répondit « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Oh oui, le roi aurait pu faire quelque chose contre eux, mais il manquait de caractère. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Analysons un peu la situation. Nous ne parlons pas ici d'un type de prison où il y a une porte par laquelle on vous laisse entrer. Non, dans ce cas-ci, on était jeté dans un puits. Il n'y avait pas d'eau dans le puits, juste de la boue. Et si vous avez déjà été pris dans de la boue, vous savez qu'elle a tendance à être froide, surtout si cette boue se trouve à une certaine profondeur dans le sol, car la température tombe à mesure que l'on descend. Sans nul doute, cet endroit devait être très inconfortable. Ils espéraient probablement que Jérémie mourrait là. En tout cas, ils étaient convaincus que là où il était à présent, il ne pourrait plus influencer qui que ce soit. Laissons-le tranquille. Assurément, le traitement qu'il lui faisait subir était des plus cruels. À toute fin pratique, cela était l'équivalent d'une condamnation à mort. Mais c'est à ce moment précis que Dieu est intervenu pour le sortir de là. Voyons, versets 7 à 9. Ébed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ébed-Mélec devait donc trouver un moment où il pourrait aller voir le roi. Cela s'est-il passé le même jour ou un autre moment? C'était probablement peu après, car Jérémie n'aurait pas survécu très longtemps dans le froid et la boue. Le roi était donc assis à la porte de Benjamin. Ébed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Versets 10 à 13. Le roi donna cet ordre à Ébed-Mélec l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Le fait qu'on ait décidé de prendre 30 hommes pour mener l'opération indique qu'on s'attendait à rencontrer de l'opposition. Le roi ne lui avait pas simplement dit d'aller le sortir du puits, mais de prendre un groupe de 30 hommes pour l'assister lorsqu'il sortirait Jérémie du donjon. Ici, Sédécias manque de persistance. Il est hésitant. Je ne vais pas tout lire sur Sédécias, mais vous verrez que Sédécias parle même en privé à Jérémie, et que Jérémie lui donne de bons conseils. Mais il n'a pas le courage de suivre ses conseils. Il fait le contraire, et cela va lui coûter sa vue, ainsi que la perte de ses fils. Toujours est-il que Ébed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendit à Jérémie, dans la citerne, avec des cordes. Ébed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ainsi, pour protéger ses aisselles, Jérémie plaça ses vieux chiffons sous ses bras. Puis, il mit les cordes en dessous des chiffons, et on le hissa hors du puits. Même avec toutes ces mesures, ce n'était probablement pas très agréable. Finalement, ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Ainsi, comme nous allons le voir, Jérémie est resté dans la cour de la prison jusqu'à la fin. Jérémie chapitre 39 nous livre quelques informations sur Ébed-Mélec. On y parle aussi de la chute de Jérusalem. Le verset 2 précise que la brèche fut faite à la ville lors de la 11e année de Sédécias. Puis, au verset 6 et 7, on nous dit que le roi de Babylone fit mourir les fils de Sédécias. Par ailleurs, dans Jérémie 39, au verset 15 à 18, il est mentionné, Jérémie 39, verset 15 à 18, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. « Va, parle à Ébed-Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. » Ébed-Mélec, un non-juif, s'était montré très courageux. Il était monté au créneau quand personne d'autre ne l'a fait. Mais il avait peur, comme nous tous aurions eu peur en pareille circonstance. Il avait peur des Babyloniens et n'avait aucune idée de ce qu'il ferait de lui lorsqu'il prendrait la ville. Mais Dieu lui a dit, par son prophète Jérémie, qu'il serait délivré de ceux dont il avait peur. Dieu lui a en effet annoncé, « Mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » Alors que je parcourais mes notes ce matin, j'avais ici ajouté un commentaire, à savoir que sa vie a été épargnée à cause de son courage. Puis, en me relisant, j'ai changé d'avis. Non, ce n'est pas à cause de son courage, mais parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. Et il a certainement fallu du courage à Ebed-Mélec pour agir ainsi. Mais le point essentiel ici est qu'il avait mis sa confiance en Dieu et non en l'homme. Nous ne savons pas si c'était par crainte de Dieu ou par courage, mais je pense que nous devons reconnaître qu'il lui a fallu du courage pour faire ce qu'il a fait. Dieu vient parfois au secours de son peuple d'une manière étrange et inattendue. Ainsi, considérez le cas de Paul. Lorsque 40 personnes ont décidé de se lier par un serment pour l'assassiner, voyez comment Dieu est intervenu. Il s'est servi du neveu de Paul qui avait eu vent de la conspiration. Ce dernier en avait alors informé Paul, lequel était ensuite allé voir le commandant. Dieu peut donc utiliser des enfants. Il peut même utiliser quelqu'un qui n'est pas de notre pays. Dieu peut utiliser qui il veut. Parfois, le salut vient des endroits les plus insolites. Souvenez-vous de Gamaliel qui, très tôt, avait épargné les vies de Pierre et de Jean. Dans le cas présent, nous avons vu Ebed-Mélec faire ce qui était juste. Il avait craint Dieu, mis sa confiance en lui et, partant, Dieu avait épargné sa vie. Nous en arrivons maintenant à une prophétie étonnante. Revenons à Jérémie chapitre 32 et fixons-en le cadre temporel. Dans Jérémie chapitre 32, au verset 1 à 3, il est dit, Jérémie 32, verset 1, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année de Nebuchadnetsar. La ville de Jérusalem est tombée la 11e année au 4e mois, et ils sont partis en captivité le 5e mois. Ceci se passe donc au cours de la 10e année du règne de Sédécias. On ne nous dit pas le mois exact. Verset 2. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. C'était après qu'il a été confiné dans le donjon. Il en avait été libéré et était enfermé dans la cour de la prison à ce moment-là. Verset 3. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit, « Pourquoi prophétises-tu en disant, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. » C'était là la raison pour laquelle il était en prison. Il avait donc été mis dans un cachot, puis on lui avait épargné cela, mais il était toujours enfermé là à cause de ce qu'il avait annoncé. Tournons-nous maintenant vers Jérémie chapitre 33, verset 1. Jérémie 33, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ce que je veux souligner ici, c'est que ceci se passe juste avant la chute de Jérusalem. C'est probablement à l'intérieur d'un intervalle de temps d'un an et 4 mois, peut-être même bien moins. Je dis cela parce que c'est la 2e fois que la parole du Seigneur lui est parvenue, et il vient juste d'être dit que c'était la 10e année de Sédécias. Alors, était-ce la 10e année et le 3e mois, ou la 10e année et le 8e mois? Nous ne le savons pas vraiment. Avec quelle rapidité la parole du Seigneur est-elle parvenue une seconde fois à Jérémie? Était-ce à un jour d'intervalle, le même jour, ou plutôt un mois ou deux plus tard? Nous ne le savons pas. Mais le fait est que le temps passe et que la chute de Juda est de plus en plus imminente. Notez que ce que Jérémie prophétise ici est sur le point d'acquérir une signification de plus en plus profonde. Jérémie 33, versets 12 et 13. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. C'est une bonne nouvelle pour l'avenir. C'est une prophétie pour l'époque qui suivra le retour du Christ. Verset 14. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours, et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Il est ici question du deuxième avènement de Jésus-Christ. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, verset 17, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Arrêtons-nous ici et réfléchissons un instant. Tout d'abord, ceci se passe du vivant de Sédécias. Donc, Jérémie est ici inspiré par Dieu de prophétiser que David ne manquera jamais d'un homme pour s'asseoir sur le trône. Mais notez aussi cet autre point important ici, à savoir que David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Il y a quelques endroits dans les Écritures où il est question de la maison d'Israël dans un contexte élargi qui inclut Juda. Mais lorsqu'il est question de la maison d'Israël dans ce contexte particulier, je pense qu'il est très clair de quoi on veut parler. C'est que, quelques versets plus tôt, alors qu'il vient juste d'être question de la maison d'Israël et de la maison de Juda, on précise que David ne manquera jamais d'un homme pour s'asseoir sur le trône de la maison d'Israël, et non de la maison de Juda, comme d'habitude. Le verset 18 poursuit disant, « Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Si, à un moment donné, on aurait pu croire que la lignée royale de David allait toucher à sa fin, c'était bien là le moment. Il y a eu d'autres périodes troublées, mais jamais à ce point-là. Et n'oublions pas que la chute de Jérusalem était imminente. Pourtant, la prophétie annonce qu'il y aura toujours un homme pour s'asseoir sur le trône de la maison d'Israël, et que les Lévites ne manqueraient jamais de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices quotidiens. Cela dit, en l'absence d'un temple, on n'aurait probablement pas offert de tels sacrifices. Cependant, même aujourd'hui, il y a ceux qui savent qu'ils sont de la lignée sacerdotale. Ils ont conservé des registres de famille et ils savent qui ils sont. Poursuivons. Jérémie 33, versets 19 à 22. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Versets 23 et 24. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens, les deux familles que l'Éternel avait choisies? Vous voyez, l'accent est mis dans ce chapitre sur la maison d'Israël et la maison de Juda. À nouveau, n'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens, les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées? Ainsi, ils méprisent mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Versets 25 et 26. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs, et j'aurai pitié d'eux. En d'autres termes, ce que nous voyons ici, c'est que Dieu indique qu'il va y avoir un transfert de la maison de David, donc de Juda, à la maison d'Israël. À un moment donné, la dynastie de David ne sera donc plus établie sur les Juifs, mais sur la maison d'Israël. Comment cela peut-il être possible? Eh bien, tournons-nous vers Jérémie chapitre 39, à cette époque où la maison de Juda est emmenée en captivité. Jérémie 39, versets 1 et 2. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Plus loin, au verset 6 et 7, nous lisons « Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda, puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Ainsi, il a vu ses propres fils tués sous ses yeux, puis on lui a crevé les yeux. La douleur a dû tout simplement être horrible, physiquement autant qu'émotionnellement. Puis Sédécias fut contraint de marcher jusqu'à Babylone, où il a fini par mourir. Il aurait pu être épargné. Si vous lisez toute l'histoire, vous voyez qu'il a eu cette opportunité. Jérémie lui avait donné de bons conseils. En fait, c'est Sédécias qui a demandé conseil à Jérémie, et il les a reçus, mais il ne les a pas suivis. Il en a subi les conséquences, sa vie se terminant de cette façon horrible. Notez à présent ce qui est dit aux versets 11 et 12. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nebuzaradan, chef des gardes. « Prends-le et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. » Nebuchadnezzar était manifestement informé de ce qui se passait dans la ville. Il a dû y avoir des gens qui se sont rendus aux Chaldéens et qui avaient parlé. Jérémie était donc un nom que le roi connaissait. Il savait qui il était. Et nous voyons ici que Nebuchadnezzar épargne Jérémie. Versets 13 et 14. Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchadnezzar, chef des eunuques, Nergal Sharetser, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison, et ils le remirent à Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, pour qu'il soit conduit dans sa maison, et il resta au milieu du peuple. Le roi de Babylone établit ensuite Guédalia comme gouverneur du pays. Cela devient une histoire intéressante parce que, dans Jérémie 40, verset 15, nous voyons qu'il y a un homme du nom de Joshanan, fils de Caréach, qui se rend secrètement auprès de Guédalia à Mitzpah pour lui dire « Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie ?» Autrement dit, il lui a dit « Cet homme va t'assassiner. » Il y a des rumeurs à ce sujet qui circulent à l'étranger. Guédalia était probablement un brave homme qui ne pouvait pas imaginer le mal, et il était de ce fait un peu naïf. C'est pourquoi on lit au verset 16, Jérémie 40, verset 16, « Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Joshanan, fils de Caréach, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. » Hélas, il l'a fait. Il a tué Guédalia et plusieurs autres. Allons maintenant à Jérémie chapitre 41, verset 10. Donc Ismaël tue Guédalia et prend note des personnes captives qui sont là. Jérémie 41, verset 10. Ismaël fit prisonnier tous ceux qui restaient à Mitzpah, les filles du roi et tous ceux du peuple qui y demeuraient, et que Nebuzaradan, chef des gardes, avait confié à Guédalia, fils d'Achikam. Ismaël les emmena donc en captivité, et notez que parmi ces personnes se trouvaient les filles du roi. Tous les fils du roi avaient été assassinés sous ses yeux, mais cette petite déclaration nous en dit long, à savoir qu'il y avait des filles du roi qui n'avaient pas été mises à mort. Joshanan et tous les chefs des forces armées étaient arrivés sur les lieux y avait sauvé ce petit groupe, y compris les filles du roi. Nous voilà arrivés au chapitre 42 de Jérémie, et je vais juste vous en faire un bref résumé. On voit ici Jochanan et tout le peuple qui recherchent le conseil de Dieu, disant « Tout ce que le Seigneur dira, que ce soit bon ou mauvais, nous le ferons. » Eh bien, nous connaissons la nature humaine, n'est-ce pas? Eh oui, le verset 7 nous apprend ensuite que la réponse de Dieu est parvenue à Jérémie 10 jours plus tard. Dieu a donc laissé passer 10 jours avant de leur répondre, pour leur dire de ne pas descendre en Égypte. Maintenant, si on analyse la situation de leur point de vue, ils ont probablement pensé que Nebuchadnezzar serait en furie en apprenant que Guédalia, le gouverneur qu'il avait mis en place, venait de se faire assassiner. Oui, Jochanan avait réussi à sauver le reste du peuple des mains du meurtrier, mais néanmoins, leur situation n'était pas bonne. Ils ont alors dû penser qu'il ferait mieux de se sauver en Égypte pendant que cela était encore possible. Ils ont ainsi rejeté le conseil de Jérémie, même si celui-ci leur avait annoncé ce qui arriverait s'ils descendaient en Égypte, à savoir qu'ils mourraient tous là-bas. Les 7 premiers versets de Jérémie 43 nous montrent que Jochanan et sa troupe rejetèrent le conseil de Dieu tout en obligeant tous les rescapés à les suivre en Égypte. Notez-le au verset 5 et 6. Jérémie 43, versets 5 et 6. Et Jochanan, fils de Caréach, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda, qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda, les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie, le prophète, et Baruch, fils de Nérija. Ainsi, Jérémie, Baruch, les filles du roi, et tout le peuple descendirent en Égypte, même si Dieu avait dit à Jérémie que ce n'était pas la chose à faire. Jérémie y est aussi allé avec eux. Il a peut-être été forcé, nous ne le savons pas. L'histoire s'interrompt là, et l'on pourrait penser qu'ils sont tous morts en définitive, selon ce que Dieu leur avait prédit. Il y a cependant un élément d'information qui mérite d'être signalé. Il se trouve dans Jérémie 44, versets 11 à 14. Voyons-le. Jérémie 44, versets 11 et 12. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal, et pour exterminer tout Juda. Je prendrai les restes de Juda, qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés, ils tomberont dans le pays d'Égypte. Puis il est question de la malédiction, de l'épée, de la famine, etc., qui frappera ceux qui descendront en Égypte. » Finalement, verset 14, « Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda, qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte, avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. » À ce stade, il nous faut nous tourner vers l'histoire pour connaître la suite. Nous n'oublions pas les diverses promesses que Dieu a faites à David. Et Jérémie n'a-t-il pas dit par ailleurs qu'il y aurait toujours un dirigeant de la lignée de David sur la maison d'Israël? L'histoire prend donc le relais et nous apprend que, selon la légende irlandaise, Jérémie et son scribe Baruch seraient venus sur l'île d'Émeraude avec les filles du roi. Par ailleurs, nous apprenons aussi que la descendante de l'une de ces princesses siège aujourd'hui même sur le trône d'Angleterre et que son portrait est exposé dans le monde entier, en particulier dans les pays du Commonwealth, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et ailleurs. C'est assurément l'une des personnes les plus connues dans le monde entier. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans notre brochure intitulée « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». De temps en temps, il est bon de se rappeler ces faits, car c'est une histoire remarquable que nous lisons ici dans le livre de Jérémie. Lorsque nous lisons les récits des prophètes, et des autres serviteurs de Dieu, nous constatons qu'ils ont eu des vies passionnantes, mais pour le moins stressantes, et je n'exagère pas. Il nous serait difficile d'imaginer ce qu'a pu être la vie de l'un d'entre eux. Leur propre famille les rejetait et complotait contre eux, allant même parfois jusqu'à les faire mourir. Cependant, avec le temps, la valeur de leur travail est devenue indéniable. Tel est le cas de Jérémie, et tel sera le cas de ceux qui restent fidèles à l'œuvre de Dieu pendant ces temps de la fin qui s'annoncent.